De Des Moines en Iowa à Erkingen en Suisse.
Mais qu'est-ce que tu fais là, Fox ?
Toute l'actualité.
Ou presque.
Dans Carrément Méchant.
La peine d'accord. La peine trop fort. La peine encore. La peine de mort.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue. Vous êtes à l'écoute de Carrément Méchant numéro 20. Et aujourd'hui, Émilie n'est pas là. Alors, coucou Fox.
Bonjour Yann.
Tu es journaliste jeux vidéo, je crois qu'on peut te décrire comme ça majoritairement, n'est-ce pas ?
Majoritairement jeux vidéo et journaliste culturel, on peut dire maintenant, parce que je traite aussi du cinéma, je traite de plein de choses.
Tu podcastes beaucoup chez nous sur RadioKawa.com, évidemment.
Oui, je podcaste beaucoup sur Radio Kawa avec les tauliers, avec Ludographie Comparée, que j'ai le plaisir de faire avec toi. Mm-hmm. Et puis je parle aussi du Marvel Cinematic Universe avec l'ami Faskill.
Oui !
Avec notre podcast Les Clairvoyants.
Qui n'est pas sur Radio Kawa, mais c'est pas une raison pour pas aller l'écouter.
Qui est sur geekzone.fr.
Exactement.
Maintenant.
Et tu remplaces au pied levé Émilie, qui n'est pas là pour ce numéro 20, pour ce numéro quasiment anniversaire de l'émission, qu'on enregistre le 2 février, qu'on enregistre par ailleurs le lendemain, eh bien oui, des deux caucus en Iowa, donc de la première marche des primaires aussi bien pour les démocrates que les républicains américains. Alors, Fox, comment ça s'est passé ?
Ah, dans la longue liste des choses surprenantes et parfois stupides de la campagne de Donald Trump, un nouveau soutien est venu se greffer en la personne de Sarah Palin.
Ah.
Avec l'échéance de la primaire en Iowa, notre Alaskaine porteuse de flingues et amatrice de thé est venue porter son soutien avec toute la verve qu'on lui connaît. Nous avons besoin de quelqu'un de nouveau qui a la puissance et la capacité de faire sauter l'establishment, nous dit-elle. Cet establishment qu'elle condamne et dont Trump et son empire sont l'une des plus belles représentations. Mais ne lui entonnons pas rigueur, elle est persuadée que la prière peut guérir le cancer et que l'homosexualité est contagieuse, faut pas trop non plus lui en demander. Pour elle, les autres candidats, soutenus par les élites, portent le politiquement correct comme une ceinture d'explosifs. La figure de style a de quoi laisser pantois dans le choix des mots, mais l'épouvantail du radicalisme républicain ne s'arrête donc pas là. Parce que Trump est le maître pour négocier des accords, un commandant en chef qui laissera nos guerriers faire leur travail et botter le cul de l'État islamique.
Oh.
Ivana Trump lui répondra qu'il est meilleur dans ses affaires que ses divorces, mais c'est une toute autre histoire. Sarah, la colombe des contrées givrées dont Trump dit qu'elle est une femme qui sent les choses et qui les comprend mieux que quiconque, porte un soutien indéfectible à son glorieux leader. L'Iowa est le premier état à voter dans les courses d'investiture, et remporter cet état peut être un indicateur important du choix des électeurs. Barack Obama, en son temps, a pris son envol sur la province si vivement attaquée par Trump, qui a tout de même qualifié les Iowans de stupides fermiers incultes et quelque chose que l'on traduirait par cutéreux. Je pense que c'est le mot. Hein. Comme quoi, on peut dire des énormités et porter un animal mort sur la tête, on trouve toujours pire que soi. S'il se voyait déjà investi, Donald Trump n'a au final récolté que 24% des voix face à Ted Cruz, qui le devance de 4% et d'un siège. Et qui prend malgré tout une avance qui peut être difficile à rattraper. Sarah Palin n'aura pas été le choc républicain qu'il espérait, peut-être même que l'égérie du Tea Party a fait réfléchir les électeurs quant à la suite des événements. Du côté des démocrates, c'est un autre jeu qui s'est joué, celui de l'archaïsme qui d'habitude sied au pays auquel l'Amérique apporte son aide, démocratique et bienveillante. Pardon. Attention, le pile ou face. Oui, Yann.
Oh.
Le pile ou face. Oh. En Iowa, lorsque deux candidats arrivent à une égalité parfaite ou quasi parfaite, le choix du vainqueur se fait à pile ou face. La tension était à son comble et toute la nuit, suivant le direct de CNN sur un stream de mauvaise qualité, qui était atroce, je dois l'avouer, je suis resté fasciné, mais fasciné par Bernie Sanders et Hillary Clinton, l'un, démocrate socialiste, alors ce gros mot à la télévision, en guerre contre les lobbies, Wall Street et les millionnaires, et même milliardaires, et l'autre, ex-première dame habituée au sommet du pouvoir, démocrate libérale qui tente de se gauchiser et de gauchiser son pédigré, alors que nombre de ses votes au Congrès ont été similaires à ceux des républicains. Et j'étais fasciné que j'étais de voir les contradictions des uns et des autres, Donald Trump effronté dans son discours de défaite, me rappelant malgré tout que l'on oublie toujours les seconds, Ted Cruz plein d'entrain dans son rôle d'Al Capone populiste, clamant ses grassroots comme un poujade d'haranguer les commerçants jadis, Hillary Clinton, tournée vers l'avenir et les nouvelles technologies, chouchoute qu'elle est des grosses entreprises de la Silicon Valley, et Bernie Sanders, aux apparences de petits vieux pleins de malice, refusant les super PACs et les dons des lobbies et sociétés de la bourse. Et cette pièce, de la voir tourner, je l'ai attendue jusqu'à plus de 7h du matin quand même, espérant voir deux pingouins endimanchés lancer une pièce pour désigner un vainqueur. J'ai attendu de voir la première puissance mondiale valider un vote de son peuple avec un quart d'heure dollar. Je n'ai jamais été très enclin à suivre les soirées électorales. Je leur préfère les rediffusions des barbouzes et des tontons flingueurs. Mais voir une pièce décidée d'un vainqueur était le twist le plus improbable qu'on ait pu me donner. À l'instar d'un season final de Buffy contre les vampires, j'ai attendu fébrile de savoir quel serait le résultat final et qui tomberait sous les coups de piolet. Et la pièce n'est pas tombée. Ah, que j'ai été déçu de voir Hillary Clinton l'emporter de quelques dixièmes de pourcent, même 0,2%. Aussi déçu qu'à la fin de True Blood où tout est mou, gluant et sans saveur. Trump a glissé sur l'escabeau Palin. Ça, c'est un fait. L'Iowa ne lui sera pas favorable et les votes semblent n'être qu'un début. Le duel Clinton-Sanders se poursuivra sans pièces. Mais je me rappellerai toujours que cette nuit, un état de la première puissance mondiale a failli jouer le destin de ses administrés à pile ou face. Et c'est bien la seule fois où la tranche ne m'aurait pas fait plaisir.
Et pour le coup, ça nous rappelle aussi une certaine époque où on recomptait des votes. On recomptait notamment après les élections de 2000, entre démocrates et républicains.
Parce qu'il a fallu recompter aussi lors de l'élection de George Bush Jr., puisque la Floride, qui était à l'époque tenue par son frangin, qui est aujourd'hui dans la course présidentielle, Jeb Bush, avait quelque peu manipulé les votes.
Non, c'est simplement qu'il y avait des machines à voter et on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors peut-être, qui sait ?
On rappellera, bien sûr, depuis 2005, le scandale des machines à voter qui avait déjà eu lieu lors de ce recomptage. Scandale des machines à voter dont les principaux actionnaires et fabricants sont des forts soutiens républicains. Mais parfois, ça bug. Vous savez ce que c'est, l'informatique hein ? Pourquoi ça ne marche pas ? Marche pas quand on les programme pour que ça marche pas. Mais bon.
Ou quand on les programme, en tout cas, peut-être pour que ce soit en situation de recompter. Toujours est-il que pour finir cette histoire des années 2000, c'était finalement un républicain, George Bush Jr., qui avait gagné face aux démocrates, alors que les démocrates avaient plus de voix. Mais comme c'est le système des grands électeurs, on n'est jamais prêt d'un twist supplémentaire avec ce qui se passe aux États-Unis. Et comme c'est le début, ne serait-ce que des primaires, sans passer des choses d'ici novembre. Donc c'est un sujet qu'on va suivre, je pense, encore dans Carrément Méchant. J'en suis même certain. Allez, Fox, je t'emmène très brièvement en France. Je t'emmène très brièvement à Paris, chez Europe 1, la radio Europe 1. La radio qui a eu ses jours de gloire, notamment, pendant mai 68.
Mais tout va bien chez Europe 1.
De quelque chose de très révolutionnaire, comme ça, un esprit finalement très moderne, qui était de couvrir un petit peu les mouvements sociaux à cette époque. Tout va très bien chez Europe 1, pas tellement. Dans la famille sexisme ordinaire, je demande ce mois-ci Europe 1, justement. Lors de l'annuelle renégociation des salaires de la 4e ou 5e radio de France, on sait plus très bien, la question de l'inégalité salariale entre hommes et femmes a été soulevée. Denis Oliven, brillant patron d'Europe, a alors proposé une idée innovante, exploitant le potentiel de synergie avec le reste du groupe Lagardère, et qu'on peut aussi qualifier de complètement stupide. Le bon chef d'entreprise a en effet répondu à la question de l'inégalité en offrant aux salariés ES, mécontentes, une formation de développement personnel.
Bon. C'est magnifique.
Déjà, on remarque que la réponse du monsieur ne répond absolument pas à la question légitime et même essentielle soulevée par ces dames. Au mieux, ça prouve que Oliven a besoin d'être interné. Au pire, c'est la démonstration d'un mépris unilatéral. Ce n'est pas l'échelle salariale qui doit être égale pour toutes et tous. Non, ce sont aux employés de se repenser, simplement, hein. Et de continuer de coûter moins cher, aussi. 20-30% moins cher, selon un représentant du personnel interrogé par le magazine Marianne. Mais il y a mieux! Car, je vous l'ai fait remarquer un petit peu plus tôt, cette formation de développement personnel exploite les réseaux du groupe Lagardère, à qui Europe 1 appartient. Cette formation, pour employés mécontentes de leur écart salarial, il se passe, mais oui, auprès de journalistes du magazine Elle, bien sûr! Parfait!
Oh mais c'est magnifique!
La boucle est bouclée!
C'est merveilleux!
Mais quel farceur, Denis Oliven! Sacré déconneur! Il manque juste un pas parfois pour passer des médias à la politique. Et on reste en France, donc finalement, médias, politique et littérature, Fox.
Ah oui, parce que la littérature, mon cher Yann, ça gratte. Et avec la nouvelle année qui vient aussi la dernière ligne droite pour nos politiques français avant la grande course à la présidentielle. Et la rentrée 2016 était littéraire, et la nouvelle année 2016 est littéraire, je dirais même plus littérale, lorsque les titres de certains ouvrages fleurbont la fraîcheur des promesses de grandeur, et les pastilles mentholées fabriquées avec amour en Auvergne. Suivez mon regard. Pour l'ex-président et futur présidentiable, ex-prévenu Nicolas Sarkozy, la France pour la vie est un cri d'amour à un pays qui l'a tout donné. Il y expose sa vérité sur de nombreuses zones d'ombre de son quinquennat et nous parle de ce pays qu'il aime et souhaite protéger plus que tout et apporter son soutien et sa force. Son fidèle second, l'ex-président de l'UMP, ex-ministre, ex-prévenu dans l'affaire Big Malien et actuel député Jean-François Copé, nous parle du sursaut français. Un ouvrage retentissant sur son exil et son énième rédemption. Aujourd'hui purifié des noirs nuages qui flottaient au-dessus de sa tête, il s'attaque au redressement du pays par des propositions censées sauver notre belle patrie. Quant à lui, l'ex-premier ministre, ex-condamné, ex-exilé au Canada Alain Juppé, revient aussi avec les bras chargés de bouquins, mais lui vraiment chargé, hein, comme un professeur. L'ex-maire de Bordeaux nous inonde d'ouvrages programmatiques comme « Mes chemins pour l'école » ou « Pour un État fort », des conseils pratiques pour aider à retrouver la grandeur de la France qu'elle a perdue. En 5 ans, évidemment, pas avant. Tous suivent le chemin de l'ex-premier ministre et ex-bête noire, ex-banni François Fillon qui, avec son livre « Faire », dressait en septembre une liste d'actions politiques à mener pour sortir la France du marasme économique et social dont le quinquennat socialiste est évidemment responsable. Mais seul sur sa bicyclette, la dernière ombre socialiste du gouvernement, l'ex-garde des Sceaux, ex-tête de Turc, Christiane Taubira, s'apprête à sortir un livre aussi. Murmure à la jeunesse. Si les 100 feuillets ont déjà attisé l'ire de la classe politique et réveillé de nouveaux griefs de l'opposition qui trouve encore un point d'accroche pour s'occuper, Madame Taubira y appuie sa vision de la politique, son refus de la déchéance de nationalité et ses possibles extensions, et réitère sa fidélité à François Hollande tout en appuyant ses désaccords avec le gouvernement. Si la primaire de fin d'année chez les Républicains s'amorce à coups d'idées et de confessions vérité, gageons que les juges auraient aimé autant de prolixité lors des différentes audiences dans lesquelles ils ont été entendus. Quant à Madame Taubira, elle continue de rouler, et tous détestent.
Comme d'habitude. Très bien, merci beaucoup Fox, on va quitter la France maintenant, même si on va y revenir un peu plus tard, hein, je le sais, je le vois sur le conducteur, je peux lire l'avenir grâce à cette fantastique feuille de papier informatisée. En attendant, je te propose de tremper le pied dans le Maroc pour un petit voyage rapide et pour
Qu'est-ce
parler
qui se passe au Maroc
de communication. Par une dépêche Reuters, on a appris le 7 janvier 2016 que le Maroc a décidé de bloquer les services gratuits de téléphonie internet, ce qu'on appelle plus communément les services de VOIP, Voice Over IP Internet Protocol. Parmi ceux-là, on retrouve évidemment Skype, Mumble, Discord, Ventrilo, mais aussi FaceTime et les fonctions d'appel de WhatsApp, Facebook Messenger et consorts. Là, en m'écoutant, vous vous dites probablement que cette interdiction a été décrétée sous un prétexte sécuritaire, de sorte qu'en censurant les moyens de communication modernes, les conversations soient plus aisées à intercepter. Alors laissez-moi vous dire que si c'est le cas, vous avez absolument tort. C'est beaucoup plus idiot que ça. L'ANRT, l'Agence Nationale Marocaine de Réglementation des Télécoms, a annoncé couper le sifflet de ses services car, verbatim, l'acheminement de tout trafic téléphonique à destination du client final ne peut être assuré que par des exploitants de réseaux publics de télécommunications dans les conditions fixées par les cahiers des charges et des licences dont ils sont attributaires. Outre le manque à gagner, en termes de chiffre d'affaires résultant pour le marché national des télécommunications du fait de l'utilisation des services gratuits de téléphonie sur IP, ces derniers ne remplissent pas toutes les conditions requises pour être en conformité avec la réglementation en vigueur. On croit rêver. C'est comme si l'État interdisait l'email car il rentrait en concurrence avec la Poste. La NRT ajoute que toutefois que cette suspension s'inscrit dans le cadre de la mise en conformité des exploitants avec les obligations qui leur incombent dans le cadre des licences dont ils sont détenteurs. Ainsi, on devine qu'en mettant la bonne somme entre les bonnes mains, on arrivera probablement à remettre en route son service. Dernier détail intéressant, le marché téléphonique est au Maroc entre les mains de Maroc Telecom, appartenant à une entreprise de l'émirat Etisalat qui est elle-même filiale de plusieurs groupes, y compris Orange France, le monde est si petit. Eh ben écoute, il est maintenant temps d'aller en Suisse pour notre partie helvétique de Carrément Merchant, la partie que vous aimez tous évidemment pour mieux connaître mon beau pays. Émilie n'étant pas là, je vais l'assurer seule et je vais commencer par vous parler d'un certain Oscar Freisinger. Vous ne le connaissez peut-être pas. Oscar Freisinger est mon UDC préféré. De tout le parti, c'est celui qui ne déçoit jamais. Et en plus, il est francophone, ce qui me permet de ne rien manquer à la subtilité de son verbe, à la robustesse de sa pensée, à la magnificence de sa coupe de cheveux qui le place pile entre le professeur qui se croit jeune à plus de 50 berges, et le paysan qui espère un jour gérer son propre empire de vache litière. Oscar est tellement mon UDC préféré que mon iPad m'a proposé lors de la rédaction de la présente chronique l'autocomplétion de son nom de famille, Freisinger. Si on interprétait son patronyme avec un dictionnaire bilingue allemand chelou anglais, je parie qu'on découvrirait que Freisinger signifie chanteur de la liberté, ménestrel du peuple libre et éclairé par lui, leader chevauchant la mascotte de l'UDC, le chien Willy, tel Poutine torse-poil sur un cheval. Non, franchement, Freisinger est une merveille. Une merveille de crétinerie ambulante. Je ne sais pas si ce sont ses déclarations outrancières dans le texte, son air arrogant, ses apparitions aux côtés du répugnant bloc identitaire français, ou la somme holistique de tous ses traits, le fait qu'il ait exhibé à son domicile de grands drapeaux du Second Reich, rappelons qu'au troisième un burger est offert, mais Oscar est, et désolé de prendre ainsi position, la quintessence de tout ce qui peut me déranger chez l'UDC. Ce parti est un mélange de nombreuses sensibilités, d'idées, de causes, et je respecte le melting pot. Mais Freisinger, il est pour moi le porte-étendard du pire, du plus pénible, du plus géniard, bref, de ce que le parti a simplement de pire à offrir. Je ne suis pas de ceux qui jette le bébé avec l'eau du bain. Je ne suis pas partisan pour deux sous, j'ai mes idées, et elles ne collent dans leur globalité avec aucun parti, aucune formation, aucun homme ou femme politique. Aucune chaussure ne convient à mon pied. Mais Freisinger, c'est comme porter une sandale couverte de lames de rasoir. Niet, nada. Il est de ces rares personnages qui provoquent une véritable fatigue intellectuelle chez moi, un ras-le-bol du cervelet. Le bonhomme, de sa place de vice-président de l'UDC Suisse, défend la nouvelle initiative populaire du parti. Son but, à l'initiative populaire, est de pousser à l'application d'une autre initiative populaire acceptée par le peuple en 2010 et qui résumait simplement met en place le renvoi des étrangers criminels vers un lieu décrit comme « chez eux ». En campagne, Oscar le Valaisan fait la tournée des médias et multiplie les déclarations. Une des plus récentes dira probablement quelque chose aux observateurs les plus affûtés de la vie politique française. Pour Freisinger, je cite « Avec nous, les choses sont claires. Tu viens chez nous, tu te comportes bien. Sinon, tu pars. C'est simple. » Alors, deux choses. Premièrement, le tutoiement paternaliste à deux ronds dignes de McDo qui s'adresse aux adolescents, c'est d'une familiarité qui n'a pas lieu d'être. Deuxièmement, et pour en revenir à ma comparaison avec la vie politique française, j'aimerais toutes et tous qu'on se rende compte qu'il repompe purement et simplement Jean-Marie Le Pen dans le texte et dans l'affiche. Tu viens chez nous, tu te comportes bien, sinon tu pars, c'est exactement la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Voler les recettes du fasciste borne d'en face, fallait oser. Tiens, d'ailleurs, tant qu'il est question de renvoi, va-t'en Oscar, tire-toi, chez toi ou ailleurs, mais loin de préférence. Tu me fatigues.
La France, tu l'aimes ou tu la quittes? Je crois que c'est Nicolas Sarkozy, en fait.
Non, c'est Le Pen.
Non. Ah non, c'est ça. C'est la péritérité de la phrase, ça revient à...
Jean-Marie Le Pen, qui a été reprise ensuite par... Qui a été ensuite reprise, on va dire, de manière plus...
Oui.
D'ailleurs, de manière assez finalement freisingerienne par Sarkozy, puisqu'il l'avait reformulé, il avait ajouté plein de mots au milieu pour que, en gros, le sens soit là, mais pas nécessairement les mots exacts. De Villiers aussi l'avait repompé.
De Villiers, évidemment.
Dans sa grande tradition d'être l'open mic, évidemment, même si aujourd'hui... il était passé un petit peu en mode... en mode sous-marin depuis un bon moment, De Villiers, hein, surtout à cause d'une affaire de mœurs qui touchait sa famille.
Il est en train de revenir,
parce qu'il
a publié un bouquin
l'an
dernier. Oui, non, mais dont je n'ai pas parlé, parce que je ne parle pas des torchons d'extrême droite quand je parle de la classe politique de droite, surtout que De Villiers est encore un cas bien à part.
Mm-hmm.
Mais oui, De Villiers, touché par une très grande affaire de mœurs et d'inceste et de viol entre ses. D'accusations de viol, en tout cas, restons polis entre ses fils.
Ce qui, pour le coup, on peut considérer sa politique comme on veut, mais ça n'a strictement rien à voir avec ça, genre de choses.
Mais il avait, étant donné qu'il avait été aussi, il souffrait d'une longue maladie, il avait pris le parti de mettre de côté sa carrière pour se refaire aussi une santé. Il propose un livre qui est sorti l'an dernier, avec évidemment des œuvres et des idées de son cru, donc qui est un mélange proche entre des idées soutenues par les traditionalistes qui suivent Jean-Marie Le Pen depuis les prémices, quelques idées empruntées à l'UMP, à la droite dure de l'UMP bien évidemment, donc la droite de Copé, la droite de Nadine Morano et autres. Et au milieu de ça, évidemment, un gloubi-boulga chrétien rigoriste, hein, dont il est l'un des fers de lance vendéens. Mais bon, pour le coup, le problème de Philippe de Villiers est qu'aujourd'hui, la classe politique ne le considère plus. Les électeurs ont beaucoup de mal à le considérer.
Ah, tout le monde s'en fout royalement parce que Marine Le Pen, en gros, occupe son espace politique en partie. Elle occupe plein d'espaces politiques, y compris le sien.
C'est ça, puisque lui était dans une classe politique proche du royalisme, en plus que c'est un royaliste convaincu. Le problème, en l'occurrence là, c'est qu'aujourd'hui, les Français ne cherchent pas de royauté, ils cherchent plus quelque chose qui se rapprocherait de l'impérialisme, et Marine Le Pen incarne bien cet impérialisme français, complètement désuet et hors des réalités, évidemment.
Ça promet pour l'année prochaine. On y reviendra là aussi.
On va s'amuser en 2007. On va s'amuser.
2017.
Hein. 2017,
tu,
pardon.
Tu ne vas pas nous refaire. Tu vas pas nous refaire Ségolène Royal contre Sarkozy là. Quand même. On se respecte.
Non, pas encore. Pas encore. Non,
allez,
pas 50 plus.
Dernier sujet helvétique et dernier sujet de ce 20e numéro de Carrément Méchant. On va aller parler allemand un petit peu. C'est une initiative qui fait parler d'elle. Les élèves de l'école primaire de la commune d'Erkingen ne pourront plus parler que l'allemand. En cause, l'ambiance parfois tendue entre les élèves suisses et ceux qui portent une nationalité étrangère. Et même si les officiels de la commune à l'origine de cette modification du règlement scolaire local se défendent de toute discrimination en reconnaissant que les enfants turbulents ne sont pas nécessairement étrangers, ils estiment qu'interdire l'usage de langues autres que le suisse-allemand et l'allemand apaisera l'école en homogénéisant un lieu que la mère Johanna Bartholdy, mère PLR, décrit pudiquement comme étant très hétérogène. La même Bartholdy, qui nous rappelle la RTS, a été condamnée en 2014 pour avoir révélé le nom de 6 administrés qui ne payaient plus leurs impôts. Charmant personnage. C'est donc de manière très feutrée que ce changement de règlement est introduit. Mais fait-il sens ? À vrai dire, quand on regarde les sanctions prévues, on peut se questionner sur l'innocence des pouvoirs publics de la petite commune soleroise. En effet, dès le prochain semestre scolaire, à compter de septembre donc, les élèves qui passeront outre la langue de Goethe pour s'exprimer se verront tout d'abord avertis verbalement, peu importe ce qu'il dit dans cette langue d'ailleurs. Si le pétulant bambin récidive, une lettre sera envoyée à ses parents, espérons qu'ils sachent lire l'allemand, les intimant d'exercer leur autorité parentale sur leur progéniture afin d'obtenir le résultat souhaité. Si le gamin recommence une troisième fois à baragouiner dans un autre langage, imaginons par exemple qu'il entonne la digue du cul en espagnol, le marmot sera inscrit d'office à 10 cours d'allemand que les géniteurs devront payer 550 francs tout compris.
Oh seigneur.
Que des problèmes d'intégration puissent survenir dans des cantons suisses, franchement, ce n'est pas ce que je cherche à discuter. C'est vraisemblable et ça ne doit pas être l'objet de notre curiosité. Par contre, que la réponse de l'exécutif local ne concerne qu'une certaine partie des concernés et en plus touche inégalement le Suédois en exil fiscal par rapport à la Grecque qui émigre pour des raisons économiques, ou même la Syrienne qui est arrivée en Suisse dans un contexte de guerre et de terreur qu'on connaît, c'est un peu plus discutable. C'est même tellement discutable qu'au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau cantonal, au niveau régional, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le système suisse, le patron de l'office cantonal de l'école obligatoire de Soleure n'est pas à fond en faveur de cette mesure. Andreas Walter, c'est son nom, il a confié à l'ATS que si Erkingen comptait sur la loi scolaire cantonale pour mettre en œuvre son petit dispositif ajouté à la réglementation, eh ben, la commune pouvait aller se brosser. En fait, on devrait peut-être inscrire Bartholdy et ses joyeux camarades à un cours accéléré de gestion communale. Ça les occupera.
Mais pour moi qui suis quelqu'un qui est fait, qui subit, je dois l'avouer, j'ai subi 7 ans et demi d'allemand en cours, parce que j'ai fait allemand LV1. On m'a pas donné le choix. Hein. L'éducation nationale par chez moi était magnifique. On m'a dit tu es bon élève, tu es brillant. Donc, étant donné que nous avons des places très limitées en anglais et en espagnol, vu que tout le monde veut faire anglais-espagnol, parce que je suis frontalier espagnol d'origine. Tu vas aller faire de l'allemand.
Moi j'avais entendu dire que c'est un truc très populaire en France pourtant l'enseignement de l'allemand.
Ah mais c'est l'enseignement de l'allemand est une langue populaire, sauf que dans mon bled frontalier de l'Espagne près de Biarritz,
oui,
dans mon cours d'allemand on était 4.
Oui.
Et j'ai fait 6 ans d'allemand à 4 en classe.
Oh la vache.
Avec je n'ai rien contre nos amis germaniques, allemands, autrichiens et suisses allemands, quoique les suisses allemands quand même c'est encore une race à part, c'est
non,
un peu comme
non,
comme les flamands, c'est des gens un peu bizarres, on va dire.
Je suis pas d'accord avec ça. Je suis absolument pas d'accord.
Ah non, mais
avec
je parle
ça,
de mon prisme
préjugé.
De français.
C'est un
préjugé.
Ah
oui, mais c'est un préjugé de lointain français évidemment, hein. Comme vous avez les Suisses ont des préjugés contre les frontaliers. Mais j'ai une aversion absolue de l'allemand et j'en ai fait 7 ans. Et je voudrais annoncer mon empathie et mon soutien à tous ces enfants qui vont être obligés de parler une langue qu'ils vont détester pendant des années en étant obligés de le faire à l'école.
Vu où est situé Erkingen, je veux dire, ils allaient de toute façon l'apprendre, mais là ils sont obligés de ne parler que l'allemand et spécifiquement que l'allemand. Si jamais ils s'expriment dans une autre langue, c'est avertissement, puis.
C'est quelque chose qui a eu lieu chez moi, par exemple. Ça, par contre, on peut le ramener à la France en vitesse,
ouais.
Mais je vis au Pays Basque.
Oui.
Donc le Pays Basque, qui est frontalier de l'Espagne, a la langue basque comme véritable langue nationale, si tu veux. Ça a été pendant très longtemps. Les enfants, autrefois chez moi, ne parlaient pas français ou parlaient très tard le français.
Mmh.
Et à l'école, ils étaient forcés de parler le français et parce que lorsqu'ils sortaient des murs de l'éducation nationale, Ils rentraient chez eux, leurs parents ne parlaient que basque, ils leur parlaient en basque et ils ne parlaient que basque. C'est-à-dire que quand tu regardes des habitants d'un certain âge de chez moi, mais 60, 70 ans, 80 ans, ils parlent tous basque, ok, mais ils parlent français avec un extrêmement fort accent. Et l'accent basque, c'est un accent un peu comme ça. Ça chante, tu vois, ça chante.
C'est beau.
Mais ça écrase quand ça parle. Tu comprends? C'est potiolo, ça écrase comme ça. Aminesh Karian, l'émission, elle était bien.
Eh ben, merci. Merci d'avoir été là pour remplacer au pied levé. Emily Fox, on te retrouve dans l'étolier, on te retrouve dans les éditions Q&A, questions-réponses. Donc tous les 6 mois, c'est un rendez-vous choisi.
Le rendez-vous biannuel est préparé avec toi pour poser des questions extrêmement intéressantes et passionnantes à Mathieu Gou.
De ludographie comparée, il faut quand même qu'on balance le nom de l'émission. Et puis sinon, on peut te lire sur gamecult.com où tu exerces le journalisme de jeux vidéo.
Ah oui, je fais des guides et des solutions, je décortique les jeux pour aider les gens à s'en sortir, ou je présente, par exemple, là, j'ai parlé un petit peu de comment modder Fallout, mettez pas vos jours à jeu parce que ça va péter, parce que Bethesda a encore fait des bêtises, mais j'explique, oui, les mécaniques d'un jeu, et puis on me retrouve sur Geekzone où je fais des articles un peu plus tech, je parle de l'e-cigarette en ce moment, j'ai un prochain article qui arrive, et puis on fait surtout le podcast des clairvoyants avec l'ami Faskil et l'ami Arkeon, où on parle de Marvel et des films Marvel et du MCU de Disney et Marvel Studios.
C'est beau. C'est merveilleux.
Ça, c'est un grand plaisir de le faire.
Merci d'être venu donc. On te retrouve sur Twitter @FoxMonsieur. On me retrouve sur Twitter @InxHD et l'émission, on la retrouve @MéchantHerka. Puis tiens, quand même, on retrouve Emily @Eroulet sur Twitter. Il faut le dire. Hein. Voilà, ce serait dommage de manquer le coche. Et évidemment, on l'embrasse. On se retrouve dans Carrément Méchant sans Fox. Hein. On va le mettre dans une petite boîte.
Je m'en vais.
On se retrouve le mois prochain. Et d'ici là, merci de nous avoir écoutés et à très vite. Ciao.
À Noël, les ans. Enfants pauvres ne reçoivent jamais de cadeaux. À Noël, ils ne font que des rêves très gentils. À Noël, ces enfants pleurent car pour eux. C'est bien triste la vie. Il faudrait que quelqu'un puisse leur faire cadeau d'une journée remplie d'amour et de bonheur. Ils ont foi dans leur cœur, mais ils rêvent la nuit, rêvent d'un jour où ils seront plus chanceux. Ne reçoivent jamais de cadeaux. À Noël, ils ne font que des rêves d'amour, d'un amour qui doit durer toute la vie.
Direct et avec vous grâce au hashtag Passe le Stick.
Bonsoir et bienvenue dans Passe le Stick, l'émission qui va bientôt prendre des
vacances. Pas capable de faire bien mérité parce qu'on est en train de
s'il vous plaît, ça ne va pas le faire. On ne pourra pas faire tenir un Passe le Stick en 20 secondes. Alors, ce que je vous propose, chers auditeurs, c'est de nous écouter tous les lundis dès 21h pour plus d'une heure d'actualité jeux vidéo en direct sur Radio Kawa. Et là, au moins, on devrait avoir le temps.
Tout à fait.
Merci, Pipo.
Salut, c'est Eric. L'univers des comics vous intéresse mais vous n'osez pas vous y plonger ? Vous êtes perdu dans la multitude de titres et d'adaptations au ciné ? Vous confondez toujours Batman et Robin ?
Ah mais ouais, mais là c'est chaud là. là quand même, c'est chaud.
Dans Comics Outcast, avec une équipe de chroniqueurs de tous horizons, on décortique pour vous les titres sortis récemment, on revient sur des grands classiques du genre, on vous présente les auteurs et les illustrateurs qui font du bruit, on va même jusqu'à regarder les films, les séries télé et les dessins animés dans la bonne humeur et avec beaucoup de mauvaise foi. Pas de prosélytisme, Marvel, DC, Image Comics, mais aussi Dark Horse, IDW et les maisons indées, tout y passe. Il y aura forcément quelque chose pour vous. Comics Outcast, c'est toutes les deux semaines sur Radio Kawa.